Un quitus en échange d'un pontife.
La jambe maigre, la tournure erronière, le menton penché, Philippe de Poitiers se tenait devant Louis Hutin. « Sire, mon frère, disait-il d'une voix tranchante et froide qui n'était pas sans rappeler celle de Philippe le Bel, je vous ai remis les conclusions de notre examen. Vous ne pouvez pas me demander de nier le vrai quand il éclate. » La commission nommée pour vérifier les comptes d'Enguerrand de Marigny venait d'achever la veille ses travaux. Pendant plusieurs semaines, Philippe de Poitiers, les comtes de Valois, d'Évreux et de Saint-Paul, le grand chambrier Louis de Poitiers, l'archevêque Jean de Marigny, le chanoine Étienne de Mornay et le chambellan Mathieu de Try, réunis sous la présidence sourcilleuse du comte de Poitiers, avaient étudié ligne par ligne le journal du Trésor sur une période de 16 ans. Ils avaient exigé des explications et s'étaient fait produire justifications et pièces d'archives sans omettre aucun chapitre. Or, cette enquête sévère effectuée dans un climat de rivalité et souvent de haine, puisque la commission se partageait à peu près également entre adversaires et partisans de Marigny, ne faisait rien apparaître qui pût être retenu contre ce dernier. Son administration des biens de la couronne et des deniers publics se révélait exacte et scrupuleuse. S'il était riche, il le devait aux libéralités du feu roi et à sa propre habileté financière. Mais rien ne permettait d'avancer qu'il eût jamais confondu ses intérêts privés et ceux de l'État, et encore moins qu'il eût volé le trésor. Valois, en proie à une déception furieuse de joueur qui a mal misé, s'était obstiné jusqu'au bout à nier l'évidence. Et seul son chancelier Mornay l'avait à contre-cœur soutenu dans une insoutenable position. Louis X se trouvait donc en possession des conclusions de la commission, prononcées à 6 voix contre 2, et pourtant il hésitait à les approuver. Cette hésitation blessait vivement son frère. Les comptes de Marigny sont purs. Je vous en produis la preuve, reprit Philippe de Poitiers. Si vous souhaitiez un autre rapport que celui de la vérité, alors il fallait désigner un autre rapporteur que moi.
Les comptes, répliqua Louis X. Chacun sait bien qu'on peut leur faire dire ce que l'on veut, et chacun sait aussi que vous êtes favorable à Marigny.
Poitiers considéra son frère avec un mépris calme. Je ne suis ici favorable à rien, Louis. Sinon au royaume et à la justice. C'est pourquoi je vous présente à signer le quitus qu'il convient de donner à Marigny. » Toutes les oppositions de tempérament qui avaient existé entre Philippe le Bel et Charles de Valois réapparaissaient entre Louis X et Philippe de Poitiers. Mais les rôles, cette fois, étaient inversés. Naguère, le frère régnant, possédait vraiment toutes les qualités d'un roi et Valois auprès de lui jouait les brouillons. À présent, c'était le brouillon qui régnait. Et son cadet qui montrait des aptitudes de souverain. Pendant 29 ans, Valois avait pensé « Ah, si seulement j'étais né le premier !» Et maintenant Poitiers commençait à se dire, mais avec plus de justesse, « Je tiendrai certainement mieux la place où la naissance a mis mon frère. »
« Et puis, les comptes ne sont pas tout. D'autres choses ne me plaisent guère, dit Louis. Ainsi, cette lettre que j'ai reçue du roi d'Angleterre, me recommandant de reporter sur Marigny la confiance que notre père avait en lui, et vantant les services qu'il avait rendus aux deux royaumes, je n'aime point qu'on me dicte mes actes. »
« Est-ce parce que notre beau-frère vous donne un sage conseil qu'il vous faut aussitôt refuser de le suivre ?» Louis X détourna le regard et s'agita un peu sur son siège. Il répondait à côté des questions et visiblement voulait gagner du temps.
« J'attendrai pour me prononcer l'avoir entendu Bouville, dont le retour m'est annoncé tout à l'heure, dit-il. « Qu'a donc Bouville à voir dans votre décision ?»«
Je veux avoir les nouvelles de Naples, et celles du conclave, » répondit le hutin avec énervement.
« Je ne souhaite point aller contre notre oncle Charles au moment où il me trouve une épouse et qu'il me fait un pape. » »«
Ainsi, vous êtes prêt à sacrifier aux humeurs de notre oncle un ministre intègre et à éloigner du pouvoir le seul homme qui sache en ce jour conduire les affaires. Prenez garde, mon frère. Vous ne pourrez point maintenir demi-mesure. Vous avez bien vu que tandis que nous étions à éplucher les comptes de Marigny comme ceux d'un mauvais serviteur, tout continuait en France à lui obéir, ainsi que par le passé. Il vous faudra ou bien le restaurer en toute sa puissance, ou bien l'abattre complètement, en le tenant coupable de crimes inventés et en le châtiant d'avoir été fidèle. Choisissez.
Marigny peut mettre une année encore avant de vous donner un pape. Mais il vous en donnera un conforme aux intérêts du royaume.
« Notre oncle Charles, lui, va vous promettre un Saint-Père pour chaque lendemain. Il n'ira sans doute pas plus vite, mais il vous sortira quelque Caetani qui voudra repartir pour Rome et de là-bas nommer vos évêques et tout régenter chez vous. »
Il prit le quitus qu'il avait préparé et l'approcha de ses yeux, car il était fort myope, pour le relire une dernière fois.
Ainsi approuve, loue et reçoit les comptes du sire Enguerrand de Marigny et le tient quitte, lui et ses oires, de toutes les recettes faites par l'administration du trésor du temple, du Louvre et de la chambre du roi. Il ne manquait au parchemin que le paraphe royal et la position du sceau.